Et à 8h38, c'est la revue de presse de Maïwenn Bordron. Bonjour Maïwenn.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Une question aujourd'hui à la une de Libération.
Où est Steve ? Le titre s'affiche en lettres noires sur une photo des bords de Loire à Nantes, le quai Wilson exactement. C'est là que Steve Canisso a été vu pour la dernière fois il y a 3 semaines. C'était la fête de la musique et l'animateur de périscolaire de 24 ans participait à une soirée techno avec ses amis, des teufeurs comme on les appelle parfois. Ce soir-là, la police tente de disperser le rassemblement. Il est environ 4h30 selon Libé qui s'est procuré une vidéo de l'opération policière. Les premières lacrymos sont lancées, les policiers ici avance. Il y a la Loire derrière, crient les jeunes à plusieurs reprises, mais les forces de l'ordre continuent d'avancer vers la foule. Il y a des mecs dans l'eau, arrêtez, il va y avoir un drame. Un agent rétorque qu'ils arrêtent de nous caillasser. Alors, que s'est-il passé ce soir-là? Les policiers ont-ils répliqué face au jet de projectiles des fêtards ou ont-ils commencé à lancer des grenades lacrymogènes pour disperser la foule? Si la scène reste confuse 3 semaines après les faits, une chose est sûre, 14 personnes sont tombées dans la Loire et Steve est toujours porté disparu. Pour sa mère, interviewée par Libé, il n'y a pas de doute, Steve est lui aussi tombé dans l'eau ce soir-là. Les parents se sont peu exprimés depuis la disparition de leur fils. Ils en parlent désormais au passé. Ils souhaitent retrouver le corps, puis préparer les obsèques. Sans corps, le deuil est impossible, lâche une amie de Steve avant d'ajouter amère. Si c'était le fils du préfet, on l'aurait déjà retrouvé. Chaque jour, les amis de Steve scrutent la Loire depuis le quai Wilson. Ils se relayent et veillent jusqu'à ce qu'ils sachent ce qui est arrivé à leur pote, écrit Libé. Leur pote est devenu le disparu de Nantes, une disparition qui suscite peu de réactions. Grand silence politique autour du disparu de Nantes, titre Le Monde. L'animateur périscolaire est un fantôme quasi invisible aux yeux des dirigeants politiques, poursuit Le Quotidien. Avec une comparaison, la mort de Rémi Fraisse, touché par un tir de grenade il y a 5 ans. L'affaire avait à l'époque provoqué de vives tensions politiques sous la présidence de François Hollande. Pour Le Monde, Steve Canisso pourrait devenir le deuxième mort lié à des violences policières du mandat d'Emmanuel Macron. Il y a 7 mois, Zineb Redouane est décédée à Marseille. Cette Marseillaise de 80 ans a été touchée à la fenêtre par une grenade lacrymogène lors d'une manifestation des Gilets jaunes.
Maïwenn, la presse consacre également un dossier aux humoristes, un dossier peu flatteur.
En une du magazine Society, Gad Elmaleh, un portrait en noir et blanc et ce titre qui ressort en rouge vif, Gad et le malaise. L'humoriste a-t-il plagié, se demande le quinzomadaire. Une question et un faux suspense dans la réponse puisque les témoignages s'enchaînent dans cette enquête de 9 pages. Un à un, des comiques français mais également canadiens et américains racontent avoir retrouvé une de leurs vannes dans un sketch de Gad Elmaleh. C'est le cas de l'humoriste américain George Carlin. Dans un de ses shows en 1992, il lance sur scène « Est-ce que vous avez déjà regardé votre montre et ensuite vous n'avez aucune idée de l'heure qu'il est ?» Une phrase que l'on retrouve quasiment au mot près dans le spectacle « Sans tambour » de Gad Elmaleh. 11 ans après. Ces soupçons de plagiat n'auraient sans doute jamais été rendus publics sans la chaîne YouTube Copie Comique. Au début de l'année, un YouTuber anonyme a mis en ligne une vidéo dans laquelle sont juxtaposés des extraits de One Man Show de Gad Elmaleh avec ceux d'autres comiques. D'un côté, le supposé plagiaire, de l'autre, les plagiés. Les blagues sont quasiment identiques. La vidéo a l'effet d'une bombe. Comme le rappelle Society, Gad Elmaleh faisait jusque-là figure de patron de l'humour français. Les langues se délient dans cette enquête fouillée, selon Le Figaro. Le Quotidien affirme avoir demandé à l'humoriste de réagir à l'enquête publiée dans le quinzomadaire en vain. Comme une réponse à ce silence, Le Figaro tacle Gad Elmaleh dans un autre dossier intitulé « Les humoristes ne font plus rire » en cause une panne d'inspiration sur scène, selon Le Quotidien. Ce mal a frappé 2 autres pointures de l'humour, Danny Boone et Jamel Debbouze. Le premier a annoncé il y a 1 an qu'il arrêtait les one-man shows pour se consacrer au théâtre et au cinéma. Enfin, il y a 1 mois, le deuxième créait la surprise en mettant sa carrière entre parenthèses pour quelques années.
À lire également, Maïwenn, dans le Figaro aujourd'hui, l'histoire de l'Opéra Bastille.
Oui, la salle fête, c'est 30 ans aujourd'hui. Elle a été inaugurée le 13 juillet 1989, exactement par François Mitterrand. Le Figaro revient sur les polémiques qui ont éclaboussé le projet. Bastille n'est pas le palais Garnier et cela lui a été reproché dès l'origine, peut-on lire. L'Opéra Bastille a failli ne pas voir le jour. On est en 1986. C'est alors la première cohabitation. Le Premier ministre Jacques Chirac s'oppose au projet qu'il juge trop coûteux. De l'autre côté, François Mitterrand ordonne au contraire à l'architecte Carlos Hoth de poursuivre les travaux. L'architecte uruguayo-canadien, interviewé par Le Figaro, affirme que le président socialiste lui aurait alors dit « Le gouvernement gouverne et le président préside. Je vous ai avez commandé un opéra et vous allez honorer votre contrat. Après son inauguration, Bastille a fini par convaincre jusqu'à ses farouches détracteurs, selon Le Quotidien. 30 ans après, un autre projet fait polémique, la construction d'une salle modulable, une troisième salle pour l'opéra. Coût total, 60 millions d'euros. Les travaux ne devraient pas commencer avant 2020.
Et puis une actualité incontournable dans la presse, Maïwenn Bordron, le Tour de France.
Huitième étape aujourd'hui entre Mâcon et Saint-Étienne. 200 km et 3750 mètres de dénivelé. C'est l'étape la plus dure du Tour sur le papier si on met de côté les étapes de montagne, selon le journal L'Équipe. Ça, c'est pour le côté sportif, mais le Tour de France, c'est aussi des passionnés. Dans La Croix, on peut lire aujourd'hui le portrait d'un cycliste pas comme les autres. Un curé cycliste qui vit dans le Loiret, le père Robert Leroy, c'est son nom, a parcouru 600 000 km à vélo, soit l'équivalent de 200 Tours de France. Le curé de 67 ans fait 7000 km par an. Il aimerait en faire plus, mais il n'a pas le temps. Les gars de son âge, comme il dit, ont le temps de s'entraîner. Ils sont à la retraite. Lui, il doit s'occuper des messes, des obsèques et des mariages. Et il confesse, j'ai pris un peu de poids, raconte-t-il. Robert Leroy, vous ne le verrez pas sur vos écrans, pas de Tour de France pour lui, mais il participe tous les ans au championnat de France du clergé, une réunion de prêtres cyclistes qu'il ne louperait pour rien au monde.
Une autre histoire au sein du clergé, Maïwenn, elle nous est livrée par Libération aujourd'hui.
C'est l'histoire d'une révolte de nonnes, ça se passe en Mayenne, dans le village de Saint-Aignan-sur-Rouet, où est installée la congrégation des Petites Sœurs de Marie. Les sœurs ont décidé de renoncer à leurs vœux et de retourner à l'état laïque. Un cas rarissime dans le catholicisme français. Elles se disent victimes d'abus de pouvoir de leur supérieur hiérarchique. Les religieuses rebelles, comme les appelle Libé, ont l'intention de porter plainte pour harcèlement. L'intégralité de leur histoire est à retrouver en page 12 du journal.
Merci Maïwenn Bordron, c'était la revue de presse sur France Inter.